Si vous voulez vous tourner avec moi dans le livre d'Ésaïe au chapitre 30. On a déjà parlé de l'Égypte, ou plutôt Ésaïe nous a déjà parlé de l'Égypte, une des grandes puissances mondiales de son époque, au chapitre 19 et 20. Et là, de nouveau, il va nous parler de l'Égypte comme une alliance futile d'Israël, de Juda plus exactement. Encore une fois, je vous rappelle qu'il y a deux royaumes qui résultent du royaume de David et Salomon, son fils. Il y a le royaume du Nord, capitale Samarie, qu'on appelle Israël, avec 10 tribus. Le royaume du Sud, capitale Jérusalem, qu'on appelle des fois du nom de Juda, la tribu la plus importante. Capitale donc Jérusalem, et qui elle va résister plus longtemps aux attaques d'invasion des Assyriens puis des Babyloniens, pour être finalement, Juda va finalement être emporté en 590 en exil à Babylone. Pour le royaume du Nord, ce sera beaucoup plus tôt, c'est un royaume plus faible spirituellement, militairement. Ils vont être emmenés par les Assyriens, capitale est en Ninive, en exil en 789, 727. Et là, quelques années plus tard, en 701, les Assyriens sont en Juda. Les habitants de Jérusalem sont effrayés et ils vont essayer de lier des alliances avec des puissances importantes comme l'Égypte. Mais on va voir ce que Dieu pense de ces alliances qui cherchent le secours dans les hommes et non pas en lui. Et bien sûr, c'est pour notre enseignement que ces choses ont été décrites. Donc ne prenez pas ça comme un cours d'histoire antique. On se moque de l'histoire antique. Sauf lorsqu'elle nous apprend des leçons pour aujourd'hui, au XXIe siècle. Et nous arrivons dans un passage très riche, plein d'enseignements. Un passage, vous connaissez peut-être certains versets de ces passages que nous allons lire, et ils font du bien. Ils sont la vérité. On va lire sans plus attendre. Verset 1 du chapitre 30 d'Ésaïe, page 697 dans la Bible à la colombe. Malheur aux fils rebelles, oracle de l'Éternel. Ils tiennent conseil sans moi et contractent des alliances sans mon esprit pour accumuler péché sur péché. Ils sont en marche et descendent en Égypte sans me consulter pour chercher un refuge auprès du Pharaon et chercher un abri à l'ombre de l'Égypte. Le refuge du Pharaon tournera à votre honte et l'abri à l'ombre de l'Égypte à votre confusion. Déjà, ses ministres sont à Tsoan et ses envoyés ont atteint Hanès. Tous seront honteux au sujet d'un peuple qui ne leur sera pas une aide, ni pour les secourir, ni pour les aider, mais qui fera leur honte et leur déshonneur. C'est Dieu qui parle à travers son prophète Ésaïe, et il s'adresse à ceux qu'il appelle ses fils rebelles. Il parle de la rébellion. Vous savez que tous au cœur, à l'état brut, dans notre vie naturelle, nous sommes des rebelles à Dieu. Nous voulons toujours nous détourner de lui naturellement, nous voulons rien avoir avec lui, c'est la rébellion. C'est de se tourner contre Dieu qui nous a créés, qui nous aime, qui fait tout pour nous, qui a de bons plans pour notre vie. Mais dans notre stupidité orgueilleuse, nous disons non, je ne veux rien avoir à faire avec Dieu. Et Juda, qui était pourtant des deux royaumes issus du royaume de Salomon, était peut-être la plus spirituelle, celle de laquelle allait venir le Sauveur, le Messie, Mais il n'empêche, ce sont aussi des fils rebelles. Si vous avez des enfants, si vous avez des fils, vous savez que les fils rebelles, c'est jamais la joie. Dieu me fait grâce et me bénit avec mes enfants, mais je sais que c'est toujours quelque chose de douloureux lorsqu'un enfant se rebelle contre, pas tellement l'autorité de ses parents, mais contre l'amour de ses parents. Donc si vous êtes un jeune homme, ne vous rebellez jamais contre l'amour de vos parents. Vous pouvez vous assumer sans les rejeter. Ils contractent des alliances sans mon esprit. Ils ne se cherchent pas à être dirigés par l'Esprit Saint. Ils accumulent pour accumuler péché sur péché. Leur premier péché, c'est la rébellion. Leur deuxième péché, c'est non seulement de se rebeller contre Dieu, mais ajouter le comble en allant chercher conseil auprès ou refuge auprès de quelqu'un d'autre. C'est une chose de ne pas être aimé par sa femme, c'est une autre chose que de voir sa femme aller chercher l'amour auprès d'un autre. Je me permets d'utiliser cette image parce que c'est comme ça que Dieu parle de son peuple infidèle, comme d'une infidélité, d'une adultère. Et donc ils accumulent la foi en quelqu'un d'autre à la rébellion contre Dieu. Ils sont déjà partis, ils sont en marche. Ils descendent en Égypte sans me consulter. Ils ne demandent pas mon avis. Ils vont chercher refuge auprès du Pharaon, chercher un abri à l'ombre de la puissance militaire de l'Égypte, ou ce qu'il en reste. Mais Dieu leur annonce que cette démarche va être vouée à l'échec et qu'ils vont avoir honte de s'être engagés dans cette recherche d'un soutien autre que celui du Seigneur. Encore une fois, ce n'est pas un cours d'histoire antique. Ce sont des choses qui ont été écrites pour nous et qui doivent nous interpeller. Est-ce que quand j'ai des problèmes, est-ce que quand j'ai des difficultés, des choix à faire, est-ce que je consulte l'Éternel? Est-ce que je consulte Dieu? Est-ce que je prie? Est-ce que je prends le temps de jeûner, de prier, de lire sa parole pour chercher le conseil? Ou est-ce que je me précipite? Ou est-ce que je vais voir mes amis et je leur demande de voter pour la situation à suivre? Qu'est-ce que t'en penses, toi? Et Dieu dit, « Allô ?» Je suis là, je sais exactement ce qu'il vous faut. Mais non, on préfère avoir des choses visibles, concrètes, des amis, des conseils. On lit des livres de psychologie pour savoir quelle est la meilleure attitude à suivre. Ces choses tourneront à notre honte. Et c'est facile à dire, mais c'est beaucoup plus difficile à faire. Est-ce que notre premier réflexe, c'est la prière? Ou est-ce que c'est notre dernier recours? Rien n'a marché, alors maintenant je vais prier. Ou est-ce qu'on commence par la prière? C'est la question que Dieu nous pose ce matin. Il dit qu'en fait, les envoyés sont déjà à Tsoan et Annès. Ce sont des villes du delta du Nil, en Égypte, d'où étaient originaires déjà deux dynasties égyptienne. Maintenant, à l'époque du prophète, c'était un pharaon issu de l'Éthiopie qui régnait. Mais c'est déjà un bon rappel que ces hommes tout puissants sont déjà plus en place. Ces hommes qui étaient issus de la ville de Tsoan et celle de Annès. Et les envoyés de Juda sont déjà arrivés là-bas. Vous avez reconnu au début le mot « malheur », verset 30, chapitre 1. C'est ce qui correspond au mot anglais « woe », W-O-E. Et puis là, on arrive au mot « menace ». En anglais, c'est le mot « burden », « burden », un fardeau, une menace. Et c'est l'ironie, ça. J'aime bien la façon dont Dieu manie l'ironie à travers ses prophètes. Il va plaindre les animaux, pas les gens qui sont descendus parce qu'eux se rebellent, mais il va mettre sa pitié, ou plutôt ses sentiments de compassion pour les animaux qui, eux, sont en train de traverser le sud, le Negev, le midi, le sud, et qui sont en butte à des tas de dangers, comme les lions, les cobras, les dragons volants, on n'est pas sûr exactement ce que c'était, parce que ces animaux sont emmenés par ces envoyés de Juda en Égypte pour amener des richesses. Ils vont chercher de l'aide, mais ils savent bien que l'aide, elle ne va pas être gratuite. Donc, ils vont amener des trésors, les richesses, sur la bosse des chameaux, leurs trésors. Et tout ça, ça va leur servir absolument à rien. Nous aussi, des fois, on peut s'engager auprès d'amis, auprès de ressources. On peut contracter des emprunts qui vont nous peser très lourd, sans avoir demandé l'avis du Seigneur. Il n'y a rien de mal à emprunter de l'argent, surtout lorsque c'est pour faire un achat important, mais lorsque c'est pour acheter des choses superflues, gardez-vous du crédit revolver. C'est le crédit revolving, mais ça peut être une arme terrible contre vous. Gardez-vous de faire des dépenses inutiles. C'est ce qu'ils font. Ils sont en train de descendre en Égypte avec des choses qui valent cher. Et Dieu veut être sûr que cette expérience servira de leçon à d'autres. C'est pourquoi au verset 8, il dit à son prophète, « Viens maintenant, écris ces choses devant eux sur une tablette, grave-les dans un livre, afin qu'elles subsistent jusqu'au dernier jour, éternellement et à perpétuité. » On parle de ces choses parce que le prophète a obéi au commandement de Dieu. Il a écrit sur une tablette, gravé dans un livre, cette histoire pour nous apprendre, car c'est un peuple rebelle, verset 9, ce sont des fils indociles, des fils qui ne veulent pas écouter la loi de l'Éternel, qui disent aux voyants, ne voyez pas, et aux visionnaires, n'ayez pas pour nous des visions exactes, dites-nous des choses flatteuses, ayez des visions chimériques. Détournez-vous du chemin, écartez-vous du sentier, ôtez de notre présence le Saint d'Israël. Ces gens rebelles, ces gens indociles, la dernière chose qu'ils veulent, c'est de voir la vérité que Dieu leur annonce. Et ça, c'est un bon signe pour notre vie. Lorsqu'on commence à prendre de la distance avec la parole de Dieu, avec les réunions entre chrétiens, le culte, on rejette progressivement parce que la loi de Dieu, on sait qu'on ne veut pas y obéir et on ne veut pas la connaître. Si vous voyez que vous prenez une certaine distance vis-à-vis de la parole et des choses de Dieu, ça doit être un drapeau rouge, ça doit être un signal avertisseur qui vous dit « Attention, tu es sur une pente dangereuse. Pourquoi est-ce que tu vas plus au culte? Pourquoi est-ce que tu ne lis plus ta parole? Regarde, la poussière s'est accumulée sur cette Bible. Elle est sur ta table de chevet, mais ça fait des mois que tu ne l'as pas ouverte, peut-être. » Et plutôt que d'entendre la vérité, ils veulent entendre des choses qui vont leur faire du bien. Ils veulent des choses flatteuses. « Oh, tu es un type formidable, tu es une femme formidable. Regarde, tu as de la volonté, tu arrives où tu veux, tu as eu une promotion. Regarde, tu as du succès dans le monde. » Mais on veut pas écouter, on veut des choses chimériques. Les chimères, c'est-à-dire des choses qui ne sont pas vraies. Paul reprend cette même pensée lorsque dans 2 Timothée 4, versets 3 et 4, il dira « Il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la sainte doctrine, la saine doctrine, mais au gré de leur propre désir, avec la démangeaison d'écouter, ils se donneront maître sur maître. Ils détourneront ils détourneront leurs oreilles de la vérité et se tourneront vers les fables. J'ai dit vers les faibles, mais les fables sont faibles. C'est des choses mensongères. Et nous sommes arrivés dans une époque où même dans l'Église, on ne veut plus entendre la saine doctrine. On veut le dernier vent de doctrine. On veut la dernière fadaise. On veut la poussière d'or qui tombe. On veut les dents en plomb qui se changent en dents en or. Attendez, si Dieu veut faire un miracle, plutôt que de changer ma dent en plomb en dent en or, je crois qu'il préférait la changer en dent naturelle de nouveau. Est-ce que nous cherchons à entendre des enseignements qui nous confortent dans nos fausses voies ou est-ce que nous voulons entendre la vérité qui nous remet dans le droit chemin ? Ils disent « Écartez-vous du sentier ». Les prophètes Ésaïe, on ne veut pas vous entendre, on veut enlever le Saint d'Israël. C'est un titre pour le Fils de Dieu, c'est pour Jésus. On veut pas Jésus. Et tout de suite, l'ironie encore de Dieu, c'est pourquoi ainsi parle le Saint d'Israël. On ne veut pas entendre le Saint d'Israël. Ben voilà ce qu'il vous dit, le Saint d'Israël. Écoutez bien, au contraire. Puisque vous refusez cette parole, que vous confiez dans la violence et dans les détours, et que vous les prenez pour appui, cette faute sera pour vous comme une partie lézardée qui menace ruine et fait saillie dans une muraille élevée, dont l'écroulement arrive tout à coup, en un instant. On la brise comme on brise la jarre des potiers que l'on casse sans ménagement et dont les débris ne laissent même pas un morceau pour prendre du feu au foyer ou pour puiser de l'eau à la citerne. Un avertissement très fort de Dieu. Ils ont peur du peuple assyrien qui est un peuple meurtriers, ils vont chercher refuge auprès d'un autre peuple meurtrier, l'Égypte. Et le Seigneur leur dit, vous basez sur ces détours, ces manipulations, ces schémas de défense. Vous les prenez pour appui alors qu'ils ne sont pas du tout dignes d'appui, vous ne venez pas me voir. Et verset 13, « Cette faute sera pour vous comme le début de la fin. » Quand j'ai fait des études de génie civil, j'ai eu l'occasion de mesurer la résistance des matériaux lorsqu'on veut construire un bâtiment, une maison ou un immeuble. On prend des échantillons de terrain, on fait ce qu'on appelle des carottes, on prend un cylindre du terrain. Et puis après, on le soumet avec des appareils de mesure à une pression. Et on voit jusqu'à où il va tenir le coup. Pour savoir si on peut bâtir un bâtiment qui va peser des milliers, des millions de tonnes, ou est-ce qu'on ne pourra pas, et auquel cas il faudra faire creuser des puits pour faire des pieux en béton pour assurer le soutien des bonnes fondations. Et ce qui était toujours intéressant, c'est que on augmente la pression, on voit l'aiguille de la pression qui monte, et on regarde derrière une vitre parce que ça risque d'exploser, et on regarde la carotte qui subit cette pression. Tout va bien jusqu'à un moment, et puis à un moment donné, on remarque qu'il y a un petit défaut qui se présente. Il y a une petite fissure qui apparaît. Et là, c'est instantané. La fissure, elle ne dure pas des secondes ou des minutes ou des heures. Dès que la pression a atteint ce point où il y a un petit problème, la pièce explose, se désagrège, s'écrase. On a atteint la limite. L'écroulement arrive tout à coup en un instant. Et après, là, il parle de cette muraille qui est tellement cassée qu'on peut plus rien en faire. On peut même pas faire prendre un petit bout pour racler les braises dans un feu on peut pas prendre un petit bout qui a l'air de faire une petite soucoupe pour ramasser de l'eau, c'est plus bon à rien du tout, c'est désagrégé complètement, c'est anéanti. Cette faute sera pour vous comme ça. Est-ce que dans ma vie, il y a une faute, il y a un péché que je laisse traîner, qui fait que tant que la pression n'est pas trop forte, tant que la tentation n'est pas trop forte, tout a l'air très bien. Mais dès que la pression, la tentation devient assez forte, alors là, en un instant, en une seconde, tout se désagrège. C'est la ruine. Je laisse l'Esprit Saint nous parler à chacun. Il y a peut-être des domaines dans l'immoralité, dans nos pensées. Il y a peut-être des domaines dans l'intégrité financière où on laisse les choses aller. Sachez que quand la pression va devenir forte, ces défauts dans la cuirasse vont nous faire voler en éclats du jour au lendemain, en un instant. C'est très solennel comme avertissement. Et malheureusement, on voit des ministères qui, du jour au lendemain, explosent. Des personnes qui étaient placées sur un piédestal, les gens admiraient beaucoup. On apprend en fait qu'ils avaient des relations homosexuelles avec des prostituées. On apprend que telle personne qui mettait un peu d'argent dans sa poche. Et du jour au lendemain, ces fautes font exploser la muraille. Verset 15. « Car ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël, c'est dans le retour à Dieu et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais vous n'avez pas voulu. Vous avez dit non, nous fuirons à cheval. C'est pourquoi vous fuirez. Nous monterons des coursiers rapides. C'est pourquoi ceux qui vous poursuivront seront rapides. Comme un seul homme, 1000 fuiront à la menace d'un seul, et à la menace de 5, vous fuirez jusqu'à ce que vous restiez comme un mât au sommet de la montagne, comme un signal sur la colline. » Ce très beau verset, c'est l'Éternel, le Saint d'Israël, Dieu, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, qui disent: c'est dans le retour à Dieu et la confiance, et le repos que sera votre salut, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Quel beau verset. Si vous devez mémoriser un verset dans tout ce qu'on lit ce matin, c'est peut-être celui-là que je choisirai. Dans le retour à Dieu et le repos que sera votre salut. La repentance et la foi. Retourner à Dieu. Dire: oui, ça fait trop longtemps que j'ai plus lu ma Bible, que je ne suis plus venu au culte, que je laisse mes amis chrétiens de côté pour aller avec mes amis non chrétiens. C'est dans le retour à Dieu. Et ce qui est merveilleux, c'est que c'est pas dans l'effort, dans les tentatives, dans les bonnes résolutions, non, c'est dans le repos. Retour à Dieu et le repos que sera votre salut. Alors ça parle bien sûr du salut de l'âme, du salut que nous avons en Jésus-Christ, lorsque nous revenons à lui et que nous voyons que nous n'avons rien à faire pour mériter son amour, mais qu'il a déjà tout fait à la croix. Il nous demande simplement dans le repos de croire à ce qu'il nous a dit et nous aurons le salut. Mais je crois que c'est aussi le salut des épreuves, le salut de la paix, c'est dans le retour à Dieu. C'est pas en allant chercher des solutions, des stratagèmes pour éviter les menaces, dans le repos. Repos. C'est un mot qui fait du bien. Repos, c'est un concept qui nous restaure, qui nous fait du bien. Je veux vous demander pardon. La semaine dernière, j'ai peut-être paru vous imposer ou être déçu de ce qu'il n'y avait pas plus de monde qui était venu à ce séminaire sur comment se préparer à la persécution. Et j'ai peut-être donné l'impression que je disais, vous êtes une bande de feignants, qu'est-ce que vous avez fait? Pardonnez-moi. On ne veut pas vous imposer des réunions. Et on a eu le tort peut-être de présenter toutes ces réunions comme une seule chose, 5 réunions d'une heure et demie pendant le week-end. Vous avez dit, ouh là 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 là, surtout, je ne vais pas m'approcher de ça. Mais c'est pas à moi de vous reprendre. Si c'est le Seigneur qui vous reprend, c'est une chose. Mais je vous demande pardon de vous avoir donné l'impression qu'il faut assister à toutes les réunions. Nous avons la joie, le privilège de pouvoir présenter plusieurs réunions, plusieurs activités. Nous ne voulons surtout pas que votre foi, ça devienne de l'activisme. C'est souvent ce qui se passe aux États-Unis, dans les méga-church. À chaque moment de la journée et de la nuit, il y a 10 activités en parallèle. Et en fait, on peut passer son temps d'une activité à l'autre sans jamais rencontrer personnellement le Seigneur. Vous trouverez le Seigneur dans le repos, dans le retour à Dieu. Prenez du temps avec lui. Si vous ne pouvez pas venir à telle réunion parce que vous avez été bousculé toute la journée, ce n'est pas grave. Ce qui compte, ce n'est pas d'assister à nos réunions, c'est de passer du temps avec lui. D'accord ? C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Souvent, on a l'impression qu'il faut bouger beaucoup, remuer de l'air et tout ça. Non, c'est dans le calme, en faisant confiance à Dieu, que vous allez avoir la force du Seigneur. Et il leur dit, mais vous ne l'avez pas voulu? Vous avez dit, non, on va s'organiser, on va trouver une méthode pour échapper à la menace des Assyriens, on va aller en Égypte, on va y aller vite hein, sur des chevaux. Les Égyptiens étaient connus pour leur pur sang. Et le Seigneur lui dit, vous voulez aller vite sur vos chevaux, vous allez voir que vous allez avoir à filer devant les gens qui vont vous poursuivre. Ceux qui vous poursuivront seront rapides, vous aurez intérêt à essayer de cavaler. Et puis, une triste chose, un seul ennemi mettra en déroute 1000 d'entre vous. Alors que dans le Lévitique 26, 8, c'est l'inverse. Dieu promettait que s'il suivait le Seigneur, un seul de ses enfants mettrait en déroute 1000 de ses ennemis. Si vous avez en vous le repos, si vous avez en vous le retour à Dieu, le calme, la confiance, vous représentez une force formidable. Parce que ce n'est pas vous la force c'est Dieu en vous. Mais vous n'avez pas voulu faire ça, donc maintenant vous allez... C'est vous qui, un seul ennemi va vous en faire partie, 1000 d'entre vous dans la fuite. 5 personnes et vous partirez déjà. Et vous serez comme un mât au sommet de la montagne, comme un signal sur la colline. Il n'y aura plus personne, il y aura peut-être comme une personne qui restera. Tout le monde aura filé. C'est pourquoi, verset 18, l'Éternel attend pour vous faire grâce. Ainsi il se lèvera pour avoir compassion de vous, car l'Éternel est un Dieu juste, heureux tous ceux qui espèrent en lui. On a parlé de rébellion depuis le début du chapitre, maintenant on va passer à la restauration. Ésaïe, je l'apprécie beaucoup, j'apprécie beaucoup de livres bien sûr dans la Bible et vous aussi, mais il est tellement prompt à nous avertir et en même temps à nous rassurer. Il nous fait part de la menace, mais il ne peut pas le faire trop longtemps sans nous dire « Mais Dieu vous aime et Dieu veut du bien pour vous. Revenez à lui. » Verset 18, c'est un verset aussi que vous pouvez souligner, un verset que vous pouvez mémoriser. « C'est pourquoi l'Éternel attend pour vous faire grâce. » Peut-être qu'on peut le lire en passant rapidement sans faire attention. Mais ça, c'est le secret le secret de Dieu qu'il veut que vous connaissiez. Il y a des fois, il vous fait attendre, il attend pour vous faire grâce, mais vous attendez pas parce que Dieu vous veut du mal, mais c'est parce qu'il a un bon plan qui demande du temps. Il attend pour vous faire du bien. Je vois James et Corinne, ça fait des semaines, des mois, qu'on prie, qu'ils cherchent, qu'on essaye de les aider à chercher pour un logement adéquat. Et on pourrait penser que c'est parce que certaines églises, on dirait, oh, il y a du péché dans vos vies. Je suis sûr qu'il y en a, il y en a dans la mienne, il y en a dans toutes nos vies. Mais on mettrait le blâme sur vous en disant, c'est pas possible que le Seigneur n'ait pas déjà répondu. Si le Seigneur prend le temps d'attendre, c'est parce qu'il a quelque chose de mieux que ce qu'il pourrait vous offrir tout de suite. Vous, jeunes gens qui attendez l'élu de votre cœur, cet homme formidable, qui sera beau, qui sera humble, qui sera fort. Vous, messieurs qui attendez cette jeune femme qui sera belle, modeste, pleine de qualités. Je parle pour ceux qui ne l'ont pas encore trouvée là-bas. Ne soyez pas impatients. Remerciez Dieu de ce qu'il prend son temps pour faire, pour préparer l'autre et pour vous préparer. Pour faire que la personne que vous avez déjà maintenant sur le cœur, oh, si seulement il me regardait, ce serait merveilleux. Non, Dieu a quelqu'un de mieux pour vous. Est-ce que vous le croyez ou est-ce que vous dites, oui, Pierre nous dit ça, c'est pour qu'on soit tranquille? J'en suis vraiment convaincu. Pendant des années, on a cherché un local pour l'église. Je me rappelle avec Paul, on allait voir, on en a vu des petits locaux, des choses qui auraient été totalement inadéquates, des choses qui auraient été des détours pour nous. Et après, on a réalisé que Dieu, on a dû attendre que ce local se libère. Et il nous a bénis. Il attend pour nous faire grâce. On a souvent l'impression que c'est de l'indifférence, que Dieu ne nous aime pas. En fait, c'est parce qu'il nous aime qu'il ne nous donne pas une réponse immédiate, bien souvent. Il se lèvera pour avoir compassion de vous, verset 18, car l'Éternel est un Dieu juste. Heureux tous ceux qui espèrent en lui, car un peuple habitera encore à Sion, à Jérusalem, tu ne pleureras plus. Ce concept du reste d'Israël, de Jérusalem, il y aura encore un peuple juif qui sera béni par Dieu, qui aura le salut à la fin des temps. Il te fera grâce à l'appel de ton cri, dès qu'il l'aura entendu, il te répondra. Le Seigneur vous donnera du pain dans la détresse et de l'eau dans la pénurie. Ceux qui t'instruisent ne se tiendront plus à l'écart, mais tes yeux verront ceux qui t'instruisent. Tes oreilles entendront derrière toi cette parole. Un autre verset que vous avez peut-être entendu, voici le chemin. Marchez-y. Quand vous irez à droite ou quand vous irez à gauche, vous tiendrez pour impur l'argent qui recouvre vos statues et l'or dont elles sont plaquées. Tu en disperseras les débris comme une souillure. Hors d'ici, leur diras-tu. Alors il répandra la pluie sur la semence que tu auras mise à terre et le pain que produira la terre sera substantiel et nourrissant. En ce jour-là, tes troupeaux iront paître dans de vastes pâturages. Verset 24, les bœufs et les ânes qui labourent la terre mangeront un fourrage salé qu'on aura vanné avec la fourche et le vanne. Sur toute haute montagne et sur toute colline élevée, il y aura des ruisseaux, des courants d'eau. Au jour du grand carnage, à la chute des tours, la lumière de la lune sera comme la lumière du soleil et la lumière du soleil sera 7 fois plus grande comme la lumière de 7 jours. Le jour où l'Éternel bandera la blessure de son peuple et guérira la plaie de ses coups. Qu'est-ce qu'on voit ici? On voit les bénédictions qui attendent ceux qui s'attendent à Dieu, ceux qui espèrent en lui, ceux qui mettent leur confiance en lui. Ceux qui appliquent le verset 15, dans le retour à Dieu, le repos, dans le calme, la confiance que sera votre force. Ceux qui le veulent, contrairement à ce peuple dont il est question dans les versets précédents, si vous attendez à lui, si vous faites confiance à Dieu, alors qu'est-ce que vous allez avoir comme réponse, comme bénédiction? Verset 19, vous allez avoir des réponses à vos prières. Il entendra, il te fera grâce à l'appel de ton cri. Dès qu'il aura entendu, il te répondra. Vous allez dire, c'est en contradiction. Non, il vous répondra au bon moment, mais vous saurez qu'il est là, qu'il vous écoute. Vous aurez la direction. Il y en a qui ne savent pas ce qu'ils doivent faire aujourd'hui peut-être, ou la semaine prochaine, ou l'an prochain. Qu'est-ce que direction, vers quelle formation, vers quelle profession se tourner, vers quel travail, vers quelle solution de retraite se tourner, prendre une retraite anticipée ou pas. Toutes ces questions qui nous assaillent tous les jours, ou au moins à certaines périodes difficiles de nos vies, les périodes de grands choix. Il va nous assurer la direction. Il va nous dire, voici le chemin, vas-y. Ne pars pas à droite, ne pars pas à gauche, suis le chemin que je te montre. Vous dites, mais je ne connais pas encore ce chemin. Alors attendez. Attendez-vous à lui. Et il va vous montrer. Est-ce que vous lui faites confiance ou pas? Quand on décide sans avoir eu de réponse, c'est là qu'on ne lui fait plus confiance. Ah, il faut que je me décide, ça va être trop tard. Ce type-là n'est pas formidable, mais l'horloge biologique fait tic-tac. Et je veux avoir un enfant, je m'étais toujours dit j'aurais des enfants. Donc tant pis. C'est pas le meilleur. Non. Voici le chemin, marchez-y. Tes yeux verront ceux qui t'instruisent. Au lieu de rejeter l'enseignement de la parole, de ceux qui enseignent la parole fidèlement, vous écouterez. Vous ne vous tiendrez plus à l'écart. Vous viendrez aux réunions, vous étudierez la Bible, vous la mettrez en pratique. Vous aurez une purification si vous espérez en Dieu. La bienheureuse espérance du retour de Jésus-Christ, c'est ce qui nous purifie, nous est-il dit dans le Nouveau Testament. Cette purification, vous tiendrez pour impur, verset 22, l'argent, l'or, vous en disperserez les débris comme une souris, une souillure. Hors d'ici, vous allez voir les idoles qu'il y a dans votre cœur. La lumière de l'Esprit Saint va vous montrer les choses que vous ne soupçonniez même pas. Et vous purifierez en rejetant ces choses. Et surtout, vous allez porter du fruit. Vous allez porter du fruit. Il va répandre la pluie sur la semence que vous aurez mise dans la terre. Le pain qui en résultera sera bon, sera nourrissant. Vos troupeaux seront nombreux, les bœufs, les ânes mangeront un bon fourrage. Il y aura des ruisseaux, des courants d'eau. Et puis là, le ton change. Rappelez-vous, on a affaire à un prophète. Ça se bouscule dans sa tête, dans ses visions. Il voit le moment présent, il voit aussi le moment futur. Le jour du grand carnage. C'est la bataille d'Armageddon, sans aucun doute. Le jour où Jésus se battra contre les nations qui ne voudront pas se soumettre à lui avant l'arrivée du millénaire. À la chute des tours. Est-ce qu'il y a eu déjà une réalisation partielle? Quand on parle de la chute des tours, ça nous ramène à 2001, septembre. Je ne dis pas que ce soit nécessairement le cas, mais ça nous fait songer. Les choses qui semblaient indestructibles, le capitalisme américain symbolisé par ces deux tours jumelles, hautes de 400 mètres, une hauteur fantastique. Maintenant, on peut dater les films. Quand il y a un paysage à New York, si on voit les tours ou pas. La lumière de la lune sera comme la lumière du soleil. La lumière du soleil sera 7 fois plus grande, comme la lumière de 7 jours. On peut se livrer à certaines conjectures, mais là, il parle, il a une vision du futur, de la fin des temps. Mais peu importe, jusque-là, vous aurez la prospérité si vous attendez au Seigneur. Et là, vous serez enlevé. L'Église sera enlevée. Vous n'aurez pas à vivre la période de la grande tribulation. On a parlé de rébellion, de restauration. Maintenant, il va parler de rétribution. Rétribution, c'est payer aux méchants ce qu'ils méritent. Verset 27, on va lire ensemble. « Voici le nom d'Éternel vient de loin. Sa colère est ardente. C'est une lourde menace. Ses lèvres sont pleines de fureur et sa langue est comme un feu dévorant. Son souffle est comme un torrent débordé qui atteint jusqu'au cou pour cribler les nations avec le crible de la destruction. Et comme un mort trompeur entre les mâchoires des peuples. Vous chanterez comme la nuit où on les célèbre la fête. Vous aurez le cœur joyeux comme celui qui marche au son de la flûte pour vous rendre à la montagne de l'Éternel vers le rocher d'Israël. Et l'Éternel fera retentir sa voix majestueuse. Il montrera son bras qui s'abat dans l'ardeur de sa colère et la flamme d'un feu dévorant. Dans l'inondation, la tempête et les pierres de grêle, à la voix de l'Éternel, l'Assyrien sera terrifié. L'Éternel le frappera de sa massue. À chaque coup de bâton qui lui est destiné et que l'Éternel abattra sur lui, on entendra les tambourins et les cithares. L'Éternel combattra contre lui à main levée. Depuis longtemps, un bûcher est préparé, il est installé pour le roi. Il est profond, il est vaste. Son bûcher, c'est du feu et du bois en abondance. Le souffle de l'Éternel l'enflamme comme un torrent de soufre. » De quoi s'agit-il? Ce peuple qui fait peur à Judas, ce peuple qui fait peur aux enfants de Dieu, et pour lequel ils veulent se réfugier vers l'Égypte au lieu de chercher l'assurance, le réconfort, la protection de Dieu. Ce peuple, même s'il est utilisé pour juger le peuple de Dieu qui ne fait pas confiance à Dieu, il est aussi puni lui-même. On verra au chapitre 37-36 comment en une nuit, le camp des Assyriens, 185 000 hommes vont être détruits. Verset 37-36, on le verra plus loin. « L'ange de l'Éternel sortit et frappa dans le camp des Assyriens 185 000 hommes. Et quand on se leva le matin, voici que c'était tous des cadavres. Tous ces gens qui leur faisaient peur du jour au lendemain. » Encore une fois, l'imminence, la rapidité de l'action de Dieu quand le temps est mûr. Ils vont être victimes de la colère ardente. Ils vont être criblés au crible de la destruction en un instant. Et ça causera de la réjouissance pour ceux qui se sont attendus au Seigneur. Lorsque vous attendez au Seigneur, il va mettre un chant dans votre cœur. Un test pour voir où vous en êtes des fois avec le Seigneur, c'est de savoir est-ce qu'il m'arrive de chanter des chants de louange tout seul. Pas le dimanche matin, avec tout le monde, en faisant résonner ma voix pour faire des harmonies ou... Mais est-ce que de moi-même, j'ai envie de chanter le Seigneur? Vous avez rencontré cette jeune fille, Tabea, qui venait de Suisse pour 3 semaines. Et c'était un plaisir de l'entendre chantonner tout au long de la journée. Il y en a qui ont remarqué ça? Elle avait la joie du Seigneur dans son cœur. Vous chanterez comme la nuit où l'on célèbre la fête, vous aurez le cœur joyeux. Comme celui qui marche au son de la flûte pour vous rendre à la montagne de l'Éternel vers le rocher d'Israël. Alors on a l'impression que c'est un peu de la méchanceté de la part de Dieu. Mais non, c'est de la rétribution. Cet homme, ce roi, va finir sur un bûcher qui va être enflammé par le souffle de l'Éternel comme un torrent de soufre, comme un lance-flamme cataclysmique. Le feu va sortir de la bouche de l'Éternel pour enflammer le bûcher sur lequel le roi va mourir. Alors je vous rassure, on a vu déjà la prophétie que malgré ce jugement que Dieu porte sur ses peuples, qu'il utilise pour juger son peuple, il a un plan où Jérusalem, où ses enfants, le peuple juif, le peuple égyptien, le peuple assyrien viendront le louer tous ensemble. Ça, on l'a déjà lu dans Ésaïe. Encore une fois, Ésaïe nous donne les choses telles qu'elles sont, mais il veut toujours nous rappeler que Dieu aime tous les hommes, même les ennemis du moment. S'ils se repentent, ils peuvent devenir ses amis, ils peuvent être bénis avec, par lui. Rapidement, le chapitre 31 continue sur la même veine en disant « Malheur, verset 1, à ceux qui descendent en Égypte pour avoir du secours, qui prennent leur appui sur des chevaux et se fient aux chars à cause de leur nombre et aux cavaliers parce qu'ils sont très forts, mais qui ne regardent pas vers le Saint d'Israël et ne recherchent pas l'Éternel. Lui aussi, cependant, il est sage pour faire venir le malheur. Il ne retire pas ses paroles. Il s'élève contre la maison des méchants et contre le secours de ceux qui commettent l'injustice. L'Égyptien est un homme et non Dieu. Ses chevaux sont chair et non esprit. Quand l'Éternel étendra sa main, celui qui porte secours trébuchera. Celui qui est secouru tombera et tous ensemble, ils périront. » Ça nous rappelle bien sûr le psaume 20 que certains ont mémorisé. On a mémorisé ce verset par ailleurs. Les uns, c'est à leur char. En québécois, ça voudrait dire leur voiture. Les uns, c'est à leur char, les autres, c'est à leurs chevaux. Mais nous, c'est au nom de l'Éternel, notre Dieu, que nous faisons appel. La tentation est toujours forte de faire appel à d'autres ressources que de se tourner vers celui seul qui peut nous donner des ressources fiables, le Seigneur. Qu'est-ce qui vous fait vous lever le matin? Qu'est-ce qui vous donne l'éclat dans l'œil le matin? Dites-nous peut-être, il n'y a pas d'éclat dans l'œil le matin. C'est merveilleux de se lever en disant « Merci Seigneur, une nouvelle journée. » Mais il y a des fois, je dois l'admettre, ça peut être, c'est pas le Seigneur, c'est pas sa parole, c'est pas le fait de dire « Tiens, le Seigneur me donne une autre journée à vivre pour lui. » Ça peut être un petit projet de bricolage qui vous intéresse. Avec Marco, cette semaine, on a installé un store, un rideau roulant là où il n'y en avait pas, au premier étage. Et je dois dire que le matin, j'étais tellement impatient de pouvoir me lever pour aller travailler sur ce rideau. Et le Seigneur m'a repris, il m'a dit, si seulement tu avais le même enthousiasme tous les matins pour prendre ta Bible et dire, qu'est-ce que le Seigneur va me dire ce matin? Vers quoi nous tournons-nous pour trouver de l'énergie, de l'enthousiasme? Est-ce que c'est vers Dieu ou est-ce que c'est vers des choses futiles? Aussi bien le rideau, il est déjà cassé. Aussi bien, on va avoir un cambriolage maintenant qu'il y a un rideau. Ils vont dire qu'il doit y avoir quelque chose de précieux à l'intérieur. L'Égyptien, c'est un homme, c'est pas Dieu. Nous aussi, on fait appel à nos ressources. Alors des fois, c'est... Le Seigneur nous mène, mais est-ce que le premier réflexe, c'est d'aller sur Internet, voir Facebook, voir les gens qui nous ont dit bonjour ce matin-là, ou d'aller vers la parole pour dire que le Seigneur a des choses à nous dire? Est-ce que lorsque je recherche une maison, ou une voiture, ma première réflexe, c'est d'aller voir Kijiji, ou Salut les copains, comment ça s'appelle, Le Bon Coin, ou les sites web, ou est-ce que c'est de prier le Seigneur? Ça, c'est des tests. Désolé de vous piquer avec ces choses. Hein. Parce que je sais que ça me pique, moi. Des fois, je fais ça. Je ne suis pas désolé, non. Elle a raison, c'est bien. C'est de l'humour. Mais ce n'est pas moi, c'est l'Esprit Saint qui veut vous parler. Sur quoi, vers quoi vous vous tournez pour être galvanisé pour la journée, pour être énergisé? Un afro-néologisme qui n'est pas français, rempli d'énergie. L'Éternel seul délivre Jérusalem, verset 4, car ainsi m'a parlé l'Éternel, comme le lionceau rugit sur sa proie, et malgré l'ensemble des bergers appelés contre lui, ne se laisse ni terrifier par leur voix, ni intimider par le nombre, de même l'Éternel des armées descendra pour combattre sur la montagne de Sion et sur sa colline. Comme les oiseaux qui volent sur leur couvée, ainsi l'Éternel des armées étendra sa protection sur Jérusalem. Il protégera et il délivrera, il épargnera et il sauvegardera. Revenez à celui dont on s'est pro- profondément détourné, fils d'Israël. Alors en ce jour-là, chacun rejettera ses faux dieux d'argent et ses faux dieux d'or, ceux que vos mains ont fabriqués pour vous. Et l'Assyrien tombera sous une épée qui n'est pas celle d'un homme, celle de Dieu, sous-entendu, et une épée qui n'est pas celle d'un être humain le dévorera. Il s'enfuira devant l'épée, et ses jeunes gens seront astreints aux corvées. Celui qui est son rocher s'enfuira d'épouvante, et ses chefs seront terrifiés devant la bannière, oracle de l'Éternel, qui est un feu d'ancien et une fournaise dans Jérusalem. On a déjà entendu ce message. Dieu le répète, il le répète à plusieurs reprises parce qu'il est tellement essentiel. Vers quoi nous tournons-nous lorsque nous sommes en danger? Dieu est tout-puissant. Il se bat contre nos adversaires comme un lion qui n'a pas peur des bergers qui viennent avec des bâtons contre lui. Il est le lion de Juda. Il est le lion et il est aussi la colombe. Il est cet oiseau qui vole sur sa couvée. Il a cette combinaison incroyable de puissance violente et de tendresse, de douceur, d'amour plein de compassion et de tendresse. Il est là, il demande qu'à nous aider. Et nous, qu'est-ce qu'on fait ? On va vers nos idoles, vers nos faux dieux d'or et d'argent qu'on s'est fabriqués avec nos mains. On lisait dans les psaumes le mardi matin le fait que ces idoles, elles ont des yeux mais elles ne voient pas, elles ont une bouche mais elles ne parlent pas, elles ont des oreilles mais elles n'entendent pas. Et nous, on met toute notre confiance dedans. Et l'Assyrien, l'ennemi, quel qu'il soit, il tombera devant Dieu, devant ce lion et cette colombe, cet agneau ce lion et cet agneau. Celui qui était votre rocher, celui à qui vous vous accordiez votre confiance, une fois que vous serez revenu à vos sens et que vous ferez confiance à celui seul qui mérite cette confiance, ce rocher s'enfuira d'épouvante. Vous pouvez imaginer quoi que ce soit. Le rocher qui court, part en courant. Oracle de l'Éternel, ainsi parle l'Éternel. Amen.